On fait un bond dans le temps ce matin, retour au temps des chevaliers à l'époque médiévale.
Religion, hérésie, chasse aux sorcières, est-ce que cela a aussi eu lieu dans notre région? Notre invité donne prochainement des cours à l'Université Populaire à Bienne.
Docteur en histoire et médiéviste, Loïc Chollet est avec nous ce matin, bonjour.
Bonjour.
Vous menez actuellement plusieurs études, le point commun de toutes ces recherches, c'est l'époque, le Moyen-Âge. C'est une période qui vous fascine particulièrement, pourquoi ce choix du Moyen-Âge?
Actuellement, je mène une seule étude, donc celle financée par le Fonds national de la recherche scientifique suisse. Ce qui me plaît dans le Moyen-Âge, c'est déjà un rêve d'enfant, en fait, d'étudier cette période, une période qui me fascinait par son esthétique, son côté épique. Donc on va dire que j'ai la chance de pouvoir faire vraiment ma passion.
Réaliser un rêve d'enfant.
Voilà.
Les croyances des gens aussi, c'est quelque chose de particulier à cette époque, quelque chose de fascinant, qu'on retrouve un petit peu partout, que ce soit dans les écrits, dans la façon de vivre, la religion est vraiment présente.
Oui, alors la question des croyances est effectivement fascinante, surtout qu'il y a une grande diversité. Bien sûr, le christianisme est la religion dominante dans l'Occident médiéval, mais quand on parle de Moyen-Âge, il ne faut pas oublier que c'est une période qui recouvre à peu près 1000 ans. Donc en 1000 ans, bien sûr, il y a eu énormément de changements, d'évolutions. La religion, la société a évolué. Et qui plus est, il ne faudrait pas imaginer l'Europe médiévale comme une sorte de gros bloc monolithique à 100% catholique. En fait, il y avait vraiment beaucoup de diversité, notamment certaines pratiques ou certaines croyances qui relèvent manifestement d'un syncrétisme qui ne sont pas tout à fait du christianisme officiel, ça l'y a eu. On a aussi un phénomène, c'est que le christianisme s'est développé relativement lentement pendant ces 1000 ans qui composent le Moyen-Âge. Pour vous donner un seul exemple, la Lituanie, qui est considérée comme le dernier pays à être resté païen en Europe, ne reçoit le baptême qu'autour des années 1400. Donc on a vraiment beaucoup de diversité. Il faut aussi mentionner les communautés juives qui jouaient un rôle politique, économique, social très important dans certaines régions d'Europe. Et là, je parle seulement de l'Europe, pas du reste du monde. Donc vous voyez que c'est vraiment, quand on parle des croyances au Moyen-Âge, c'est un sujet énorme.
Alors justement, vous parlez de la religion à ce moment-là, c'est aussi la période où les évêques sont princes, donc en plus c'est quand même une période où ces gens-là, bien installés en église, sont en même temps propriétaires de terrain. C'est aussi un peu la période des croisades, ça veut dire que quand on n'est pas croyant, on est opprimé au Moyen-Âge.
Alors en fait, officiellement, tout le monde est censé avoir une religion. On est majoritairement chrétien, mais on peut aussi être juif, on peut être, selon où on est né, on peut être païen, musulman. On a aussi connaissance d'autres religions, notamment le bouddhisme. Mais théoriquement, tout le monde est censé avoir une religion. Cela dit, il y a bien sûr le cas des hérétiques, dont on parlera, j'imagine, un petit peu plus tard. Et ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on reproche aux hérétiques, c'est de corrompre la religion chrétienne, mais pas de la rejeter en bloc. Donc, même ceux que l'on attaque pour leurs mauvaises croyances sont censés croire quand même en quelque chose.
Il faut croire juste.
Voilà, il faut croire juste. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a des recherches actuelles qui tendent à montrer qu'il y avait, malgré cela, des personnes au Moyen-Âge qui doutaient et qui étaient ce que l'on appellerait maintenant agnostiques ou sceptiques. Ces gens étaient extrêmement minoritaires et ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'ils n'étaient pas persécutés, contrairement aux hérétiques, parce qu'on considérait le fait de ne pas croire en Dieu comme une faiblesse, voire éventuellement comme un trouble mental, et pas comme un crime.
Alors justement, les hérétiques, parlons-en maintenant, c'est quoi finalement? Vous l'avez un petit peu dit, parce qu'on confond souvent, mais il ne faut pas confondre avec les païens.
Oui, exactement. Un hérétique, c'est quelqu'un qui est né en général en Europe, ou en tout cas dans un milieu chrétien, qui a reçu le baptême et qui a souvent une relativement bonne formation dans le domaine de la religion et qui tout à coup, à un moment de sa vie, est censé avoir rejeté l'Église catholique pour, en quelque sorte, inventer sa propre religion ou pour suivre quelqu'un d'autre qui a, lui, inventé un nouveau dogme.
Il est sorcière, c'est des hérétiques ?
Alors oui, en fait c'est un petit peu, la sorcellerie c'est un cas un petit peu à part, parce que déjà la question de la sorcellerie est venue assez tard dans l'histoire médiévale, jusqu'aux années 1300-1400, la sorcellerie était considérée comme un ensemble de croyances et de pratiques un petit peu loufoques qui avaient lieu à la campagne, mais les clercs, les évêques se moquaient de ce genre de croyances, mais ils n'en avaient pas vraiment peur. Et cela change autour des années 1320-1330, où on a un pape, le pape Jean XXII, qui déclare que la sorcellerie est une hérésie. Et là, ça change tout, parce que les hérétiques étaient très durement persécutés. Et là, tout à coup, on a des gens qui pouvaient pratiquer ce que l'on appelle la sorcellerie de manière relativement sûre, qui se retrouvent tout à coup accusés d'hérésie. Alors, bien sûr, les choses se passent lentement. Même si un pape prend une décision, ça ne veut pas dire qu'elle est appliquée tout de suite.
Il n'y avait pas Facebook pour transmettre.
Non, exactement. Il n'y avait pas Facebook et les choses se passaient relativement lentement. Entre le moment où la décision est prise par le pape d'assimiler la sorcellerie à l'hérésie et le début des persécutions, on a quand même quelques bonnes décennies qui s'étalent.
Jamais 203, format A3.
Et nous sommes ce matin en compagnie de Loïc Chollet, docteur en histoire et médiéviste.
Auteur de plusieurs recherches sur le Moyen-Âge, on parle avec lui de l'hérésie et de la sorcellerie dans format A3.
Alors Loïc Chollet, hors antenne, on parlait de sorcellerie et des sorcières, et vous nous disiez, au Moyen-Âge, la plupart des personnes qui étaient dénoncées pour cas de sorcellerie, c'était pas des femmes. 80% à peu près des dénonciations concernaient des hommes.
Oui, exactement. La persécution contre les sorcières, les femmes, est venue plus tard. En fait, c'est pas un phénomène qui relève de l'histoire médiévale, mais c'est une période plus tardive qu'on appelle l'époque moderne.
Alors, ces sorciers, sorcières, de quoi est-ce qu'on les accusait ? Est-ce qu'on imaginait qu'ils avaient un pouvoir un peu particulier, le pouvoir de soigner ou de faire quelque chose ?
Alors, on ne sait pas, c'est très difficile de répondre à ce genre de questions parce que les traces qui nous sont restées de la répression de la sorcellerie sont essentiellement constituées par les procès. Et les procès étaient en très grande partie orientés. Il faut savoir que les juges ou les inquisiteurs venaient avec leurs idées, leurs stéréotypes sur ce qu'est un sorcier et ce qu'est une sorcière. Et à cela s'ajoute le fait que la torture était utilisée, donc on orientait les aveux des personnes qui tombaient dans les filets de l'Inquisition. Ce qui fait que c'est très difficile de savoir exactement ce qui se passait. En fait, on peut avoir un faisceau d'indices, mais c'est pas encore tout à fait des preuves.
Et puis cette répression de l'hérésie, cette chasse aux sorcières ou aux sorciers plutôt, c'était des pratiques qui étaient aussi présentes dans notre région, dans l'arc jurassien.
Oui, on trouve ce genre de choses chez nous. C'est même une des régions qui a été le plus touchée ou le plus tôt touchée par la répression de la sorcellerie. L'hérésie un peu moins, mais il y a un phénomène intéressant, c'est que étant donné l'assimilation de la sorcellerie à une forme particulière d'hérésie, on a à la fin du Moyen-Âge un amalgame qui se fait entre sorcellerie et hérésie, ce qui fait qu'une personne qui est accusée de sorcellerie peut être considérée comme hérétique, et l'inverse est aussi vrai. On a une sorte d'amalgame.
Et la répression, vous parliez de ces procès, la répression, elle prenait quelle forme ?
Alors la répression prenait plusieurs formes. Déjà dans nos régions, c'est une forme judiciaire, on a des enquêtes qui sont faites avec des procès. ça pouvait être assez, c'était même en général extrêmement dur, parce que il faut savoir que le crime d'hérésie était considéré comme tellement grave qu'on a créé une procédure spéciale, la procédure inquisitoriale, qui permettait au juge chargé de l'enquête d'abandonner les règles et les garde-fous qui normalement devaient encadrer une enquête. Donc on recourt à la torture, on peut aussi faire des procédures cachées sans forcément informer la personne exactement de ce qu'on cherche. Ça, c'est l'une des formes, c'est la plus courante pour réprimer l'hérésie ou la sorcellerie. Dans des cas où vraiment la résistance est tenace, on peut lancer une croisade. Alors ça s'est fait de manière plus rare. On a quelques exemples. Je parlais notamment de la croisade contre les Hussites. Ce sont des hérétiques qui ont cette fois-ci explicitement rejeté l'autorité de l'Église dans le royaume de Bohême, qui correspond à la République tchèque actuelle, donc très loin de chez nous. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a un noble de la région, le seigneur de Valangin, qui décide de prendre part à une croisade contre ces hérétiques tchèques. Ce qui fait que la répression de l'hérésie pouvait prendre plusieurs formes et concerner à différents niveaux les acteurs de la politique régionale.
Donc ça veut dire qu'on avait peur de la différence et qu'on pouvait aussi réprimer les étrangers.
Alors, en fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça. C'est pas la différence en tant que telle qui faisait peur. Ce qui faisait peur, c'était plutôt l'idée d'une sorte de complot gigantesque qui impliquerait des sectes d'hérétiques, des sectes de sorciers. Je reviens encore sur le fait que l'hérésie et la sorcellerie sont assimilées, amalgamées à la fin du Moyen-Âge. On avait, en tout cas, on jouait à se faire peur avec l'idée que ces gens pouvaient avoir des connexions entre eux, se réunir la nuit avec le diable dans l'imaginaire du sabbat qui arrive aussi à cette époque-là, et menacer la société chrétienne. Mais est-ce que ces peurs sont réelles? Est-ce qu'elles sont instrumentalisées politiquement? Est-ce que c'est aussi un phénomène qui tient à l'idéologie du pouvoir à l'époque, parce que le prince, le seigneur ou le magistrat voyait son rôle comme le garant de la vraie foi, sous-entendu la foi catholique, contre les forces du mal. Et les forces du mal étaient incarnées en dernier lieu par l'hérésie. L'hérésie, c'était vraiment ce qui était le pire pour la mentalité de l'époque. Donc c'était plus en fait la division, la menace intérieure, j'ai envie de dire, qui faisait peur. Les étrangers en tant que tels, pas tellement. Surtout dans le milieu de la noblesse, les étrangers étaient respectés parce qu'au Moyen-Âge, on ne badinait pas avec les règles de la diplomatie. Et qui plus est, il y avait l'idée à l'intérieur de la caste nobiliaire que les chevaliers sont plus ou moins tous cousins, on appartient à la même famille, qu'on soit neuchâtelois, savoyard, bernois, ou alors on peut aller beaucoup plus loin, hongrois, polonais. Ces gens-là sont tous des chevaliers chrétiens, on appartient à la même grande famille de la noblesse, de la chevalerie chrétienne.